BFM Business, Impact PME Lebdo, présenté par Philippe Bloch.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Impact PME. Vous le savez, notre nouvelle émission sur BFM Business consacrée aux PME, à leurs enjeux, à leur vie, aux solutions qui existent pour elles, en partenariat avec la CPME dans la perspective d'un grand événement le 5 novembre, Impact PME. Au menu du jour, la responsabilité sociale et environnementale et la médiation des entreprises. Pour en parler, j'ai trois invités autour de moi. Je suis ravi d'accueillir Stéphanie Poza. Stéphanie, vous êtes présidente du groupe Mille Éclairs. Bonjour.
Oui, bonjour.
À votre droite, Denis Olivier, qui est quant à lui président de Mille Cantines avec un t-shirt green. Ben, ça tombe plutôt bien. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Et puis, sans t-shirt. C'est et sans vrai. Cravate, Pierre Pellouzet, le médiateur des entreprises. Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
Parce qu'on évoquera ici, bien sûr, la médiation des entreprises que finalement, toutes les PME ne connaissent pas forcément.
Malheureusement, et j'espère qu'après cette émission, il y en aura encore plus qui nous connaîtront et qu'on pourra aider.
Tout va changer. Alors, on va commencer ensemble, Stéphanie Poza. Groupe Mille Éclairs. Je regardais les chiffres de votre site et puis on peut pas s'absenter parce que les chiffres que vous m'avez donnés sont encore plus impressionnants. Donc je vais peut-être les citer rapidement pour situer votre métier, puisque vous êtes en fait une entreprise de nettoyage, mais une entreprise à la fois citoyenne, solidaire, très impliquée en fait sur la responsabilité sociale environnementale. Vous avez le groupe aujourd'hui existe depuis 39 ans, 470 salariés, 7,5 millions de chiffre d'affaires, 2500 sites confiés, 1100 clients. Et vous travaillez avec votre mari à cette belle aventure. Quand est-ce qu'elle a commencé pour vous deux? Et comment s'est-elle développée finalement? Je ne vais pas dire aussi vite, mais en tout cas, là, il y a une vraie accélération parce qu'il faut mettre à jour votre site. Hein.
Oui, complètement.
Il ne faut pas s'absenter.
Non, il ne faut surtout pas s'absenter. C'est d'ailleurs un peu ce que nous reprochent des fois nos collaborateurs. Ça va un peu trop vite.
Ah, c'est un sujet, ça, dans le développement.
Donc, en fait, moi, j'ai racheté l'entreprise familiale en 2009, d'accord, qui s'appelait Mille Éclairs. Mon mari a racheté une entreprise sur un autre secteur géographique qui s'appelle Arès en 2010.
Également dans le nettoyage ?
Également dans le nettoyage, même secteur d'activité. Ouais. On était un peu concurrents, mais on s'était répartis les secteurs géographiques.
C'était pas sauvage entre vous ?
Ça dépendait. Des fois, l'apéritif est un peu compliqué.
Oui.
Et puis en 2016, avec la fusion des régions administratives, on s'aperçoit aussi que tout ce qui est mutuelle, banque, tout se centralise. On s'est dit, il faut qu'on devienne un acteur majeur de la propreté sur notre région.
Et la Normandie, hein, la région parisienne.
Et la Normandie, principalement.
Et maintenant,
et
la région
pour
parisienne.
La société Arès, qui est une de nos filiales.
Mmh.
Et puis, ce qu'on on s'est dit, on fait des choses aussi deux fois. On s'est fait certifier ISO 9001, 14001. On s'est retrouvé à faire les choses deux fois, lui de son côté, moi de la mienne. Donc on a tout mis en commun, on a tout réorganisé. La même année, on a fait une première opération de croissance externe. Donc là, le groupe a commencé à grossir. Et puis l'année dernière, deuxième opération de croissance externe.
C'est la marque Mille Éclairs qui a été préservée ou les deux marques continuent en face?
Les deux marques continuent face à face, même trois pour le moment, avec la troisième qu'on a rachetée l'année dernière, il y a un an, qui s'appelle Assistance Service, qui est une structure filiale à 100% de Mille Éclairs.
Alors, on en reparlera, mais on a eu envie de consacrer cette émission à un positionnement un peu différent d'entreprises différentes. Mmh. Et la vôtre, c'est clairement en fait la RSE, le respect de la planète. Mmh. Pourquoi avoir choisi quand même ce positionnement qui est très présent dans votre site? On sent vraiment une vraie conviction qui n'est pas que du greenwashing. On en a parlé un peu en ce moment, je vous crois sincère, mais dites-moi pourquoi avoir choisi ce positionnement?
En fait, alors, depuis que j'ai racheté l'entreprise, ça a commencé par une démarche développement durable avec la branche. En fait, on s'aperçoit, les PME, qu'il y a plein de choses que l'on fait, l'intégration de personnel éloigné de l'emploi, on fait attention effectivement à l'environnement,
les produits
éco-labellisés, le rejet des eaux usées. Il y a plein de choses qu'on fait mais qu'on ne valorise pas. Donc c'est parti de cette idée de se dire voilà, j'intègre une démarche développement durable avec la branche pour mettre un plan d'action en place et valoriser ce que je fais déjà. Et puis après la certification ISO 9001 14001, je me suis dit que c'était bien d'aller un peu plus loin et de se faire labelliser RSE au niveau national avec trois orientations. L'idée c'était d'assurer une cohérence en fait avec tous les systèmes de management, 9001, 14001, RSE. C'était aussi de pouvoir avoir une communication mobilisatrice avec les parties prenantes de l'entreprise.
Notamment vos équipes.
Notamment nos équipes, mais pas que, parce que dans bien une sûr. Entreprise, les parties prenantes sont nombreuses et il ne faut pas les
j'entends
oublier.
Bien, j'entends
les
bien.
Banquiers, les institutionnels, les clients.
Les pouvoirs publics, les appels d'offres, les donneurs d'appels d'offres.
Exactement. Donc c'était vraiment les priorités données à la RSE. Et puis c'est un vrai.
Une conviction.
C'est une conviction et une ADN avec le développement notamment du travail en journée pour nos collaborateurs.
Absolument, j'ai vu ça aussi, on en parlera peut-être. Denis Olivier, alors quant à vous, vous avez créé Mille Cantines, dont vous êtes le président.
C'est cela.
Là aussi, je regardais votre site, première application pour réduire le gaspillage dans la restauration collective. Alors d'abord, avant de voir comment ça marche, comment est venue l'idée?
L'idée en fait, elle me vient d'assez loin. J'avais 23 ans à cette époque, j'avais eu l'occasion et la chance de visiter le marché de Rungis, uniquement le marché de la Marée. Et quand on m'a dit que ça n'était que deux jours de consommation pour Paris et sa couronne, vu la taille des bâtiments et la quantité de nourriture que j'avais pu voir à cette époque, j'ai naturellement multiplié par le nombre de jours restants la France, l'Europe, le monde. Et là, je me suis dit, on va dans le mur. Et l'histoire m'a donné raison, puisque cette année, au 29 juillet 2019, la presse nous annonçait que nous avions consommé 12 mois de ressources en seulement 7 mois. Et donc, à l'avènement du digital, j'ai voulu porter une action sur la réduction du gaspillage alimentaire, puisque c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis cet âge.
Bien sûr, mais pourquoi à ce moment-là les cantines et la restauration collective?
En fait, issu de l'observation, je me suis rendu compte que ce métier-là avait des problématiques qu'elle n'arrivait pas à régler. C'était de ne jamais savoir qui venait manger, et encore moins ce qu'ils allaient manger. Oui. Et donc, du coup, ils provoquaient énormément de gaspillage alimentaire, ce qui est le deuxième secteur mondial qui impacte sur le climat.
Quoi donc,
l'alimentaire. Le gaspillage alimentaire.
Oui.
Et donc, voilà comment est née 1000 cantines.
J'ai vu, par exemple, intéressant sur votre site, vous avez une espèce de compteur qui se met à jour en permanence. Ouais. Ce matin, quand je suis allé voir le site, il y avait écrit un chiffre de 199 tonnes. C'est le gaspillage alimentaire produit en France pendant votre visite sur notre page.
C'est cela.
Ce sont des enjeux considérables.
30% des aliments de la planète ne sont pas consommés. Vous devez extrapoler ça dans un champ avec 100 bêtes. Vous devez donc imaginer que 30 partent à la poubelle. Mais ça induit quoi? Ça induit des champs de fourrage pour alimenter ces animaux pour zéro, des milliards de litres d'eau pour alimenter ces champs de fourrage pour zéro,
et
des milliards de terres retournées en CO2 tracteurs pour zéro.
En une minute, pour comprendre comment ça marche et quel est le modèle?
J'ai moins d'une minute pour vous l'expliquer.
Parce que,
en fait, c'est une application qui permet à la restauration collective de connaître à l'avance l'affluence et les choix des convives.
Par quel biais?
Via un système de réservation.
De réservation?
Via un système de réservation que l'on va trouver sur le smartphone ou le PC.
Qui réserve?
Les convives. Et ainsi, les cuisines le lendemain ne vont sortir des frigos que ce qui sera
réellement... Ils disent qu'ils vont venir demain et non pas aller dans le restaurant d'à côté, c'est ça l'idée?
On parle d'une restauration collective, donc il s'agit uniquement de convives qui ont l'habitude et qui sont affiliés à leur restauration.
Et ce que vous allez leur dire, c'est que demain je ne vais pas venir déjeuner parce que j'ai un rendez-vous ou parce que j'ai une boutique, une boulangerie à côté, et du coup c'est pas la peine de compter sur moi, ou bien ce sont... à quoi ça vous sert de savoir que... Enfin, qui vous indique qu'il ne viendra pas ou qu'il viendra? Parce que globalement, ce sont des sites un peu captifs.
Mais... aujourd'hui, en fait, nous, on collabore avec la restauration collective d'entreprises ou scolaires, publiques ou privées.
Les grands acteurs, les Sodexo, tous ces gens-là sont vos clients ou pas?
Pas forcément, puisque 60% du marché est en gestion directe.
En gestion directe,
Et 40%
par les municipalités, par les mairies, par les
écoles, marché est en gestion dédiée.
Oui.
Voilà, donc nous, on s'intéresse à toute cette restauration, qu'elle soit dédiée ou, directe. Et donc, du coup, c'est à eux qu'on s'adresse. Et c'est ensuite aux convives à qui on va donc adresser le repas du lendemain qui nous est fourni par la cuisine avec laquelle on collabore. Et c'est là où le convive a la possibilité de passer commande de ses entrées, plats et desserts et accompagnements.
D'accord, ok.
De midi à minuit.
Pour le lendemain, et donc on prévoit exactement.
On pousse l'ensemble des commandes à la cuisine qui, le lendemain, va découvrir les préparations du jour.
Alors, on en parlera sans doute, mais ça change beaucoup l'organisation, j'imagine, parce que du coup, il faut qu'ils anticipent, qu'ils préparent exactement ce qui a été commandé, etc. C'est un gros effort d'organisation pour eux ou pas?
Non, aucun. Simplement, ça leur facilite. Aujourd'hui, ils avaient déjà cette
préparation. Ça donne de la vision, ça donne de la visibilité.
Simplement, ça leur permet de ne préparer que ce qui va être consommé. Donc, c'est moins de temps passé en préparation.
Et c'est un succès, puisque j'ai vu qu'il y a une rubrique qui s'appelle Investissez, et vous valorisez votre entreprise 11 millions d'euros aujourd'hui pour les investisseurs.
C'est la valorisation de notre
site. Ça a démarré quand, pour mémoire?
En janvier 2016, et la commercialisation a commencé en janvier 2018.
Alors, Pierre Pellouzet, voilà deux exemples intéressants de PME qui se structurent, qui se créent autour de cette valeur de la RSE. Ouais. Avant qu'on parle RSE, parlez-nous rapidement de le médiateur des entreprises, qui est un job que vous occupez depuis sa création, quasiment.
Pas depuis sa création, mais presque. Ça fait 8 ans que je suis dans ce poste-là.
8 ans.
Et effectivement,
de quoi s'agit-il? Alors, c'est un job unique en France?
C'est un job unique.
Vous me disiez même unique au monde, quasiment.
En Europe, en tout cas.
En Europe.
Et probablement au monde. Il n'y a pas d'autres services de médiation publique disponibles pour toutes les entreprises. Et donc, on est heureux de l'apporter.
Quel est votre rôle, Pierre, et vos équipes? Puisque vous
le rôle de la médiation, à la base, c'est recréer de la confiance entre les acteurs économiques. Et du coup, on va développer des outils pour créer cette confiance. Le premier de ces 12 outils, c'est bien entendu la médiation, ce service public de médiation qui s'applique entre entreprises, une petite avec une grande qui a du mal à se faire payer, une rupture de contrat,
un
conflit qui se passe mal,
un éventuel
etc.
procès à venir.
Voilà, on peut être saisi par la petite entreprise.
Ou la grande.
Ou la grande.
D'accord.
En général, c'est plutôt la petite qui nous saisit.
Oui, le petit face
au gros. On va chercher la grande, on les réunit. et on les amène à trouver une solution en toute confidentialité.
Avant d'aller au clash éventuel.
Avant d'aller au clash, où malheureusement, il n'y a pas de procès. Souvent, les petites n'attaquent pas les grandes parce qu'elles ont trop peur de perdre leurs clients.
Ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir des avocats.
Voilà. Donc, on fait ça entre entreprises, on fait ça sur les marchés publics, bien entendu. Et puis, on a étendu à tout un tas d'autres sujets. Maintenant, sur 4 régions, on teste tous les sujets entreprises, administration, URSSAF, fiscal, travail, permis de construire, aide européenne, crédit d'impôt. Sur tous ces sujets-là, une seule méthode. Saisir le médiateur sur le site médiateur des entreprises. Un médiateur vous appelle et en toute confidentialité, gratuitement bien entendu, c'est un service public, va réunir les deux parties, amener un dialogue, une écoute et trouver une solution dans les 3/4 des cas.
Un médiateur, c'est un... il a quelle formation le médiateur ? Il est salarié entre guillemets du gouvernement ou bien c'est un comme un peu comme dans les prud'hommes, un entrepreneur ou une personne qui consacre du temps à
ce... Effectivement, on a les deux. On a en région des gens qui sont dans l'administration, dans la partie économique de l'administration, ce qu'on appelle les directs.
Bien sûr,
volontaires pour faire de la médiation, qui dégagent une partie de leur temps parce qu'ils ont un autre job en parallèle pour faire de la médiation, formés. On a tout un cycle de formation, ça va jusqu'à un diplôme universitaire de niveau 2, donc on peut être très poussé, très pointu en formation de médiation. Et à Paris, on a en complément une trentaine de médiateurs qui sont des bénévoles. C'est des retraités, anciens chefs d'entreprise, anciens juges au tribunal de commerce.
J'avais ça en tête, mais j'en étais pas sûr.
Voilà, oui, on a les deux. On a les deux, ce qui nous permet effectivement de, en fonction des sujets, en fonction de la géographie, en fonction de, du nombre de saisines qu'on a, de prendre le bon médiateur pour la bonne médiation.
Combien de cas par an, combien d'entreprises par an frappent à la porte de la médiation, du médiateur des entreprises et de ses équipes?
De plus en plus, vous le rappelez, je suis arrivé il y a 7-8 ans, on faisait une centaine de médiations dans l'année. Maintenant, on fait une centaine de médiations par mois.
D'accord.
Donc, il y a une croissance assez forte de la médiation, même si, vous le disiez en introduction, il y a encore beaucoup de PME, de TPE, d'associations, de collectivités qui ne nous connaissent pas et qu'on aimerait pouvoir aider. Donc c'est important qu'elles nous connaissent, qu'elles nous saisissent et qu'on puisse les accompagner.
On a une idée, Pierre Pellouzet, du taux de, non pas forcément de réussite, mais de solutions que vous facilitez véritablement,
bien sûr,
qui évitent ensuite que les gens, chacun dans leur coin, s'attaquent mutuellement.
On mesure en fait, on mesure le nombre d'accords qui sont trouvés par les deux parties.
Sur les 100 par mois, ça nous donne quoi aujourd'hui ?
C'est 75% des cas.
Donc
dans les 3/4 des cas, les entreprises ou les entreprises et administrations qui viennent autour de la table trouvent une solution, se serrent la main, ont envie de continuer à travailler ensemble, résolvent le problème et repartent.
Et vous le savez, Pierre Pellouzet, cette émission Impact PME, elle s'adresse surtout aux PME et aux TPE. Elles sont plus concernées que les autres ? Est-ce que c'est plutôt d'ailleurs l'une ou l'autre ? C'est plutôt PME ou TPE ?
On a aujourd'hui, sur 100% de saisine, on a 93%, pour être exact, qui sont des TPE-PME.
D'accord.
À peu près à parts égales entre TPE et PME.
Oui.
Ce qui veut dire qu'on est plutôt bien connu dans le monde des PME, peut-être pas encore chez les petites et peut-être pas encore suffisamment chez les TPE. Parce que bien entendu, ça ne correspond pas exactement à la décomposition des entreprises.
Non,
il y a beaucoup de TPE et un peu moins de PME, donc voilà, il y a encore beaucoup d'entreprises qui doivent nous découvrir et qu'on pourrait aider.
Alors on va venir sur d'autres sujets qui vous tiennent à cœur, mais pour autant j'aimerais demander à Stéphanie Pozaï ou Denis Olivier si vous avez eu affaire, non pas, je crois, à la médiation, non, puisque même Stéphanie, vous ne sembliez pas connaître.
Oui, non, enfin j'avais entendu parler de la médiation, mais quelle chance ça couvre et comment ça fonctionne, comment vous solliciter, je ne savais pas.
Alors voilà qui est fait. Est-ce que pour autant l'un ou l'autre, Denis ou Stéphanie, vous avez eu des occasions vous auriez pu finalement? Est-ce qu'il y a eu des problématiques effectivement de retard de paiement, de conflits avec un fournisseur ou avec peut-être des
clients,
notamment dans le cadre d'un de vos clients? Parce que vos clients aussi, ce sont souvent des appels d'offres, j'imagine. Vous bossez beaucoup dans ces métiers sur des appels d'offres.
Alors nous, on a les deux. On a aussi bien du privé que des appels, enfin des marchés publics.
Sur le marché public,
Surtout qu'au départ, on s'est plutôt développé. On était sur un créneau très haut de gamme avec des prix de vente aussi très chers. Donc on était plutôt sur du marché privé. On a réorienté notre stratégie en 2010-2011. Suite à la crise, et puis aussi parce que comme on grossit, on va chercher des marchés plus gros, on se trouve face aux plus gros, et donc aujourd'hui on répond aux appels d'offres également. Mais non,
est-ce que vous auriez attaqué, est-ce que vous auriez l'idée d'aller non pas attaquer,
justement pas attaquer,
j'ai pas compris le concept, j'ai mal compris
j'aurais
le concept.
J'aurais peur de perdre mon client, c'est exactement l'argument que vous donniez, c'est-à-dire que on a des fois des problématiques de délai de paiement ou voire même dans les appels d'offres, on peut se retrouver avec des clients qui vous disent voilà, facturation trimestrielle payable à 60 jours, c'est légal parce que c'est dans l'appel d'offres, mais il n'en demeure pas moins que ça veut dire qu'on prend quand même 5 mois de trésorerie,
de trésorerie,
parce que moi c'est de la main d'œuvre, donc je négocie pas avec mes salariés pour les payer 5 mois plus tard.
Bien sûr.
Et là, c'est des sujets sur lesquels alors je ne sais pas si je serais allée jusqu'à la médiation, parce que pour le coup j'aurais eu peur effectivement
d'être mal jugé, le client
me fasse plus travailler.
Est-ce que de votre côté, Denis, vous avez eu l'occasion éventuellement, vous auriez pu faire appel dans votre histoire d'entrepreneur récente?
Non, en tout c'est trop récent pour qu'on ait heureusement problème de cet ordre. Pour autant, effectivement, on travaille avec l'armée de terre, on collabore avec les messes de gendarmerie, on est avec la région Rhône-Alpes pour ses lycées, donc effectivement, on connaît bien les marchés publics, mais pour le moment, on n'est pas encore, nous, à un sujet de cette problématique.
Quand on parle, Pierre Pellouzet, de paiement, il y a le recours à l'affacturage inversé collaboratif. Ça aussi, c'est un truc qu'on ne connaît pas forcément.
Alors ça, c'est
une chose dont on peut parler, parce que ça aussi, les PME devraient être informées de cette...
Absolument, c'est un nouvel outil. C'est un nouvel outil en France qui n'est pas assez développé. Je vous le dis en deux mots, Philippe, je vous explique ce que c'est. L'affacturage, vous connaissez. J'ai une facture, je l'envoie à mon client, et puis j'ai besoin de l'argent tout de suite. Donc je vais voir mon banquier, je lui dis j'ai besoin de l'argent tout de suite. Il vous dit oui, je veux bien vous le payer, mais vous êtes une petite structure, je prends un risque. Donc un, je vais prendre toutes vos factures parce que j'équilibre mon risque. Et deux, je vous prends un taux d'intérêt un peu élevé parce que vous êtes une petite structure. L'affacturage inversé, c'est j'envoie la facture,
à mon client.
Le client déclare au bout de quelques jours, je reconnais cette facture, je la paierai à échéance. Cette information est envoyée au banquier.
Directement,
c'est un accord entre les trois parties. Et la PME, à ce moment-là, peut aller voir le banquier et lui dire, je veux le financer. Et le taux d'intérêt est bien entendu beaucoup plus bas, puisqu'il n'y a plus de risque. On sait que la facture sera payée par le grand compte.
C'est récent, c'est la loi Pacte, hein, je crois.
Alors,
c'est une partie de la loi Pacte, ça.
Dans la loi Pacte, on a fait passer un article parce que le public... ne développait pas cet outil. Il y avait des réticences, on disait est-ce que c'est possible. Le privé un petit peu, mais pas suffisamment. Le public, quasiment pas. Et donc la loi Pacte, maintenant, a instauré le fait qu'on pouvait développer cet outil dans le public et dans le privé aussi. Et j'ai été chargé d'ailleurs par le gouvernement de développer cet outil parce qu'on pense qu'il y a un vrai potentiel là-dessus de confiance entre les acteurs petits, grands et les banques, et puis de trésorerie. On sait le besoin crucial, vous en parliez, de trésorerie pour financer tout ce qu'on a financé, ne serait-ce qu'attendre d'être payé un jour. Donc autant utiliser cet outil à fond, et j'engage les grandes entreprises à le développer, les grands acteurs publics à le développer, et les PME, TPE à le réclamer. Il y a aujourd'hui des gens qui le font, comme l'UGAP, comme le CHI de Créteil, comme EDF, comme Engie. Il faut que les PME s'en emparent, et quand elles travaillent avec ces groupes-là, le mettre en œuvre.
Pierre Pellouzet, il y a plus de réticences ou de la méconnaissance de ce système aujourd'hui ?
Il y a beaucoup de méconnaissance.
Oui.
C'est un outil nouveau. Le terme affacturage fait un peu peur. Donc on se dit, c'est quoi ? Facturage inversé, on ne comprend pas bien. Mais c'est vraiment un bel outil. Il faut y aller, il faut l'étudier, il ne faut pas hésiter parce que, encore une fois, avoir de la trésorerie à pas cher aujourd'hui et que ça ne coûte rien à personne finalement, autant profiter. Pourquoi s'en priver exactement ?
Comment juge ce projet Stéphanie Poza qui, elle aussi, a parfois des problématiques de cette nature avec
Alors,
ses clients ?
Moi, je travaille en affacturage classique. On fait de l'affacturage classique. C'est vrai que c'est un coût énorme, avec une lisibilité des fois pas toujours très facile en termes de gestion. Et puis, avec une retenue de fonds de garantie de 10% qui n'est pas négligeable non plus pour donc c'est vrai que c'est pas simple. Moi je ne connaissais pas ce projet. Après, vers qui on doit se tourner ? Est-ce qu'on doit se tourner vers nos banques ? Est-ce qu'on doit se tourner vers vous ? Enfin voilà, comment ça fonctionne ? Et j'imagine que c'est qu'avec les marchés publics.
Non, c'est public également. Et privé. C'est pour ça. Alors il y en a quelques pionniers qui l'ont mis en œuvre en entreprise. Je citais Engie, EDF. Si vous travaillez avec l'un des deux, n'hésitez pas à leur réclamer parce qu'ils l'ont mis en œuvre. En privé pour le moment, en public pardon, il n'y a que l'UGAP et le CHI de Créteil qui l'ont mis en œuvre. Mon but c'est de le développer le plus largement possible. Ça veut dire un, que ceux qui travaillent déjà avec les pionniers l'utilisent à fond pour montrer oui, on l'utilise, ça marche, etc. Et deux, que ça puisse être communicatif auprès des autres, qu'ils soient publics ou privés, pour le mettre en œuvre. Et encore une fois, si la communauté des fournisseurs le réclame, je pense que les clients auront de plus en plus envie de le mettre en œuvre. Okay. Donc on a besoin de vous aussi là-dessus.
Denis Olivier, on n'a pas parlé de vous. Le business model en fait de Mille Cantines, quel est-il ? Est-ce que vous êtes confronté à des problématiques de cette nature de paiement ?
Alors on est référencé UGAP.
Oui.
En fait, notre business modèle se veut vertueux et circulaire.
Alors allez-y.
Que nous allons nous rémunérer sur les économies réalisées par les cuisines.
D'accord.
Pour ce faire, on s'est basé sur une étude de l'ADEME de juillet 2016 qui a défini que la perte par plateau repas était de 68 centimes. Ce que l'on propose, eh bien, c'est de laisser 35 centimes de gain à la cuisine et nous de prendre 33 centimes de coût clic de réservation du convive. Voilà donc ce que peut être cette bonne proposition. Sachant que Mille Cantines a une mission qui est très claire, c'est de réduire massivement le gaspillage alimentaire à sa source, au service de la planète, et de créer un impact climatique durable au profit de l'humanité.
Qu'est-ce que ça change dans l'état d'esprit de vos équipes que vos entreprises soient positionnées sur une préoccupation qui est de plus en plus prégnante chez les Français? Est-ce qu'il y a une fierté d'appartenance? Comment est-ce que les équipes réagissent quand on vit dans une entreprise à vos côtés, alors, avec justement l'envie de changer un peu le monde?
Aujourd'hui, il y a une vraie volonté d'exercer un métier qui a un impact.
Qui a du sens aussi.
Mais oui, qui a du sens.
On l'entend beaucoup, mais j'aimerais vérifier que ça, dans vos équipes, vous le ressentez
c'est
vraiment.
C'est complètement le cas pour les personnes que l'on recrute, qui sont vraiment totalement impliquées.
Combien êtes-vous d'ailleurs?
On est 11 pour le moment.
11 personnes aujourd'hui.
Voilà, on part en hyper-croissance depuis cette rentrée de septembre, donc on va être à embaucher. Mm-hmm. C'est le cas en ce moment. Et c'est vrai que...
Une fierté.
Une vraie fierté. Et d'ailleurs, les offres d'emploi sont plutôt sur des sites dédiés à impact. Et on voit bien que là, il y a un vrai vivier de personnes qui cherchent à apporter beaucoup plus de valeur à leur quotidien.
Dans le nettoyage, Stéphanie, est-ce que vous avez les mêmes équipes que celles qu'on trouvait dans des entreprises? Il y a des très gros géants, des métiers comme les vôtres, des plus petits, vous êtes un peu une taille intermédiaire, j'ai envie de dire aujourd'hui, en croissance également, mais comment les gens ressentent cette éventuelle fierté?
Alors sur les encadrants, les administratifs qui sont vraiment des proches collaborateurs, on sent que c'est vraiment un plus. Et effectivement, pour le recrutement, ça peut aider parce qu'aujourd'hui, notamment les jeunes recherchent non pas un métier avec des compétences, mais ils recherchent bien au-delà, c'est-à-dire qu'ils souhaitent intégrer une entreprise qui a des valeurs et qui s'investit sur tous ces sujets. Après, sur nos agents, ils sont un peu déstabilisés parce que ils n'ont pas, notamment les plus anciens, n'ont pas été formés à tout ça et ça fait pas partie de leur culture. Donc quand on a par exemple lancé une communication en disant voilà, attention, il faut prendre soin de vous, et il faut avoir des bons comportements pour l'hygiène de vie. Et on avait organisé lors de la Journée internationale du sport féminin une course marche à pied des femmes le midi, marcheuse pour celles qui ne couraient pas. Et puis on s'est dit, venez tous nous retrouver à l'agence et après on déjeunera ensemble. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils sont très. Ils se disent, mais c'est quoi cette entreprise?
C'est quoi cette boîte de...
On n'a pas l'habitude. Donc en fait, on a eu beaucoup moins de monde que prévu.
J'ai quand même envie d'y rester un petit peu.
Voilà, et on réessayera l'année prochaine en espérant qu'on aura beaucoup plus de monde qui viendra.
Parce que vous évoquez par exemple des sujets comme le développement du travail en journée, c'est aussi pour eux que vous mettez ça en œuvre.
Complètement. En fait, les agents d'entretien, qu'est-ce qu'ils font souvent? On les fait travailler tôt le matin, tard le soir.
Bien sûr. Ce qui veut dire on les voit sortir des bureaux vers minuit, effectivement.
Exactement.
Ils arrivent, ils prennent le métro, ils sont chez eux à 1h du matin en région parisienne.
Donc ils ne voient pas leur famille, ils ne voient pas leurs enfants, ils ont souvent des problématiques de garde, etc. Donc l'idée du travail en journée, c'est de dire déjà essayer de travailler plutôt entre 7h et 19-20h, d'essayer de grouper les horaires, donc par exemple le matin, leur faire faire des bureaux et après de la copropriété pour leur libérer les après-midi et les soirées, ou l'inverse. Et puis surtout qu'ils aient une période en commun, même si c'est un quart d'heure, une demi-heure avec les utilisateurs des sites. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait...
Pour comprendre leurs besoins, pour parler avec eux,
pour être connus d'eux. Créer du lien. Créer du lien. Ils ne sont plus dans l'ombre et de ce fait, les utilisateurs des sites deviennent beaucoup plus respectueux.
Ils font moins de...
Exactement.
Comme si c'était pas chez eux.
Exactement. La peau de banane qu'on retrouvait à côté de la poubelle,
depuis
on la retrouve dans la poubelle.
On a vu la tête de la personne qui le ramasse le soir, on fait plus attention. Bien sûr. En matière de RSE, la médiation des entreprises, ça a du sens ou pas? Est-ce que vous faites des choses là-dessus? Est-ce qu'il y a des enjeux pour vous et quels sont-ils?
D'abord, toute cette confiance qu'on essaie de créer, c'est purement de la RSE. C'est faire en sorte que les êtres humains, même s'ils sont dans des entreprises ou des administrations, travaillent mieux ensemble, communiquent mieux ensemble.
Travailler plutôt avec que contre.
Exactement.
Oui.
Du coup, ça nous a amené à beaucoup travailler sur la RSE. On édite d'ailleurs tous les 2 ans un baromètre des entreprises, de la RSE des entreprises dans le monde.
D'accord.
Qu'on fait avec une entreprise de notation qui s'appelle EcoVadis, qui mesure des entreprises partout dans le monde. Et on a identifié cette année, et malheureusement ça aussi, ça n'est pas suffisamment connu, que les entreprises françaises sont au 3e rang mondial sur le niveau de RSE qu'elles pratiquent.
Quelle que soit leur taille,
en moyenne, les entreprises françaises sont au 3e rang mondial. Et ce qui veut dire que quand on achète auprès d'une entreprise française, on achète un niveau de RSE exceptionnel, de classe mondiale. Et ça, c'est pas assez perçu, c'est pas assez intégré, et pourtant, ça devrait l'être, parce que il faut se dire que c'est tellement important, toute la RSE, l'environnement, le social, l'économique qu'il y a derrière, que il faut qu'on le sache, qu'on en profite, que c'est bien que nos entreprises, notamment les plus petites, fassent des efforts là-dessus, encore faut-il le valoriser à son juste niveau.
Il nous reste une grosse minute avec vous, Stéphanie, en fait, et Denis. Est-ce que, pour vous, Stéphanie, notamment, ça reste un argument différenciant aujourd'hui, au moment où beaucoup se préoccupent davantage de ces thématiques? Et est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une espèce de forte demande aujourd'hui croissante de la part des clients sur ces sujets? Vraiment très rapidement.
Alors, sur les grands marchés, c'est un plus. Notamment sur les appels d'offres, on voit bien, nous, on a récupéré un gros client, un bailleur social, il y a un an. Pourquoi? Enfin, notamment parce qu'on était, il y a notre taille, et puis parce qu'on était labellisé RSE, on était certifié ISO 9001 et 14001. Donc on s'aperçoit que ça peut effectivement être un plus.
Et pour les plus petites également, de plus en plus? Pour vos plus petits clients ou non publics?
Alors pour les petits également, peut-être un peu moins. Après, la difficulté, comme vous le disiez, c'est que tout ça, ça a aussi un coût. Et c'est dommage que ce ne soit pas valorisé, notamment par le biais des appels d'offres, où on se retrouve quand même bien souvent avec un choix du moins 10 ans et non pas du mieux 10 ans. Monsieur le médiateur, si vous pouvez faire quelque chose pour nous.
Je m'y emploie, croyez-moi.
Pierre Pelouzier va s'en occuper, il le promet. Un dernier mot.
Alors,
peut-être.
Nous, pour ce qui nous concerne, Denis au niveau du RSE, ce sont justement ces services-là qui initient
la solution de la cantine. C'est différent, bien sûr.
Il y a la loi Egalim déjà et dans le même temps, le service RSE qui est très intéressé par notre proposition.
Merci à tous les trois. Merci à vous, Stéphanie Poza. Je rappelle que vous êtes la présidente du groupe Mille Éclairs que vous dirigez avec votre mari. Denis Olivier, vous êtes le fondateur de Mille Clantines qui est en train d'exploser, vous nous l'avez dit. Et Pierre Pelouzier, le médiateur des entreprises. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Impact PME. Et je vous rappelle que tout ça aussi va bientôt aboutir à une grande journée de rencontre des PME au Conseil économique, social et environnemental qui aura lieu le 5 novembre, puisqu'Impact PME, c'est une collaboration CPME et Business. BFM Business, pardon. Bonne fin de journée à tous, à très vite. Ciao.